VOA Afrique.
Le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à tous et à toutes. Vendredi 29 avril 2016, bienvenue dans cette édition matinale de Le Monde aujourd'hui. Avec vous en direct de Washington, Anastasie Toudièche, Jean-Roger Billon. Tout d'abord le titre.
Au Burkina Faso, la Cour de cassation annule les mandats d'arrêt internationaux lancés suite au putsch de septembre.
L'ONU lève l'embargo sur les armes en Côte d'Ivoire avec effet immédiat.
Un Américain d'origine coréenne a été condamné à 10 ans de travaux forcés pour espionnage en Corée du Nord.
Les Iraniens sont appelés aux urnes aujourd'hui pour élire leurs députés.
En Haïti, Joslerm Privert veut rétablir la sincérité des résultats électoraux de 2015. Pour ce faire, il met en place une commission.
Dans quelques minutes, l'économie et le sport, mais d'abord le journal.
Au Burkina Faso, la Cour de cassation de Ouagadougou a annulé les mandats d'arrêt internationaux lancés par la justice militaire dans le cadre du putsch de septembre. Bagassi Koura.
Sont concernés les mandats contre l'ex-président burkinabé Blaise Compaoré ou le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, Guillaume Soro. Le mandat contre Guillaume Soro avait été émis le 8 janvier dernier en rapport avec l'affaire du putsch de septembre 2015. Le procureur général de la Cour de cassation, Armand Ouédraogo, a expliqué hier à VOA Afrique que ces mandats ont été annulés pour vice de procédure. Le commissaire du gouvernement, explique-t-il, reproche au juge d'instruction de ne l'avoir pas saisi dans l'émission des mandats comme le stipule la loi. Le juge d'instruction explique que le procureur peut, s'il le juge nécessaire, renouveler les mandats en tenant compte des formalités.
Le président ivoirien Alassane Ouattara avait réclamé qu'il soit totalement levé dès son élection en octobre dernier. C'est chose faite maintenant. L'embargo sur les armes décrété en 2004 ainsi que les sanctions ciblées comme le gel d'avoir et des interdictions de voyager ont été levées hier par le Conseil de sécurité de l'ONU. En plus de la levée de ces sanctions internationales qui pesaient sur la Côte d'Ivoire depuis 12 ans, l'ONU a confirmé sur recommandation de Ban Ki-moon, son secrétaire général, que la mission des Nations Unies dans le pays, l'ONUCI, se retirerait définitivement en juin 2017. L'embargo avait été assoupli en 2012 pour permettre aux forces de sécurité ivoiriennes de s'entraîner. La résolution onusienne salue, je cite, « les progrès remarquables accomplis par la Côte d'Ivoire sur la voie d'une paix et d'une stabilité durable et de la prospérité économique ».
Une enquête a été ouverte au Mali sur un vol d'armes des forces armées qui s'est traduite par la mise aux arrêts d'au moins 6 militaires et la brève suspension de 2 officiers supérieurs. D'après l'AFP, une source proche de l'enquête a évoqué la piste d'un possible trafic d'armes en lien avec le processus de désarmement, démobilisation et réinsertion, le DDR, des groupes armés loyalistes ou de l'ex-rébellion, prévu par l'accord de paix signé en mai-juin 2015. Dans son édition de jeudi, hier, donc, le quotidien pro-gouvernemental malien L'Essor fait également état de vols d'armes de guerre au sein de l'armée, citant des sources de sécurité non identifiées, selon lesquelles un nombre important de fusils semi-automatiques et de pistolets mitrailleurs, autrement dit des Kalachnikovs, ont été dérobés des magasins d'armes de la Garde nationale.
La justice gambienne a renvoyé hier le procès du chef de l'opposition Ousseynou Dabo et de 19 co-prévenus au 5 mai. Ils avaient été arrêtés pour rassemblement illégal et sont désormais accusés par le parquet de complot. Une partie des prévenus a été arrêtée le 14 avril après un rassemblement pour réclamer des réformes politiques et les autres le 16 après une manifestation contre la mort en détention d'un responsable de l'UDP, Solo Sandeng. M. Dabo, chef du Parti démocratique uni, l'UDP, principale formation de l'opposition et ses 19 co-prévenus, incluant un nouvel accusé, Massané Lalo Diaola, ont tous plaidé non coupables pour cette nouvelle inculpation de complot en vue de commettre un crime devant la Haute Cour de justice de Banjul.
Au Libéria, George Weah se lance dans la course à l'élection présidentielle de 2017. L'ancien footballeur international l'a annoncé hier et selon l'agence France Presse, s'est montré très confiant quant à ses chances de l'emporter. Âgé de 49 ans, George Weah s'était déjà présenté aux élections présidentielles. C'était en 2005. Il avait même contesté sa défaite face à Ellen Johnson Sirleaf avant de se rétracter. Très populaire au Libéria, M. Weah a été élu en 2014 sénateur de la province province de Monserrado, dans l'ouest du pays, la province la plus peuplée, où est située la capitale Monrovia.
Au Tchad, le ministre de la Sécurité publique et de l'Immigration, Ahmad Mahamat Bachri, s'est exprimé hier après-midi sur la disparition de l'opposant Mahamat Ahmat Lazina. Selon le ministre, Mahamat Ahmat Lazina se trouverait au Cameroun, où il est recherché par la justice tchadienne. André Kodmajinga a recueilli ses propos.
Dans la nuit du 18 avril au 19 2016, les nommés Mahamat Ahmat Lazina et Abdurrahman Abdoulaye, à bord du véhicule Toyota RAV4, ont embarqué la dame Mansoura Seyd pour une tentative de viol. Ces deux bourreaux l'ont amenée vers le reboisement de Toukra, où elle a profité de leur inattention pour s'échapper puis rentrer dans une concession. Les habitants ont appelé la police qui ont pu maîtriser les deux, conduits au commissariat de sécurité publique numéro 17. Mahamat Ahmat Lazina simulait une maladie et en a profité pour prendre la fuite. La dame a porté plainte pour une tentative de viol, mais Mahamat Ahmat Lazina se trouve toujours dans sa cachette. Et en ce moment, il serait au Cameroun. Nous sommes à sa trousse. Je demande catégoriquement et de manière formelle ces allégations mensongères comme quoi Al-Lazina est porté disparu.
Au Mozambique, le Premier ministre avance l'instabilité militaire pour justifier la dissimulation par l'État $1,4 milliard de dettes. Mélie Séguel.
Après le FMI, à la mi-avril, la Banque mondiale a suspendu son aide au Mozambique. C'est la suite de la partie de cache-cache sur des emprunts en 2013 et 2014 par trois entreprises privées à capitaux publics. La dette globale du pays a fait un bond de 65 à 81,7% du PIB mozambicain. Le Premier ministre étant venu d'urgence la semaine dernière aux États-Unis pour rencontrer la directrice générale du FMI, Christine Lagarde, sans trop convaincre. Pour Carlos Agostino de Rosario, cette dette n'a pas été révélée à cause des conditions atypiques du pays, avec un parti d'opposition qui, le jour, est à l'Assemblée et la nuit mène des attaques. La RENAMO, ancienne rébellion, devenue principal parti d'opposition, conteste les résultats des élections d'octobre 2014. Ces quatre derniers mois, les affrontements se sont intensifiés, provoquant la fuite de quelques 10 000 personnes au Malawi voisin.
La justice sud-africaine va se prononcer aujourd'hui sur la possibilité ou non de réinstaurer plus de 700 charges de corruption contre le président Jacob Zuma. Alors qu'il était chef du Congrès national africain, l'ANC, au pouvoir, Jacob Zuma avait été inculpé en 2007 de corruption, fraude fiscale et rackets pour la signature d'un contrat d'armement de $4,8 milliards conclu en 1999. À l'époque, les avocats de Jacob Zuma avaient utilisé des enregistrements d'écoute téléphonique entre l'ancien chef du parquet et un policier de haut rang pour convaincre la justice que leur client était victime d'un complot et obtenir l'abandon des charges. Mais au terme d'une longue bataille judiciaire, le principal parti d'opposition, l'Alliance démocratique, DA, a obtenu ses enregistrements en septembre 2014. Estimant que les charges en réalité ont été abandonnées pour des raisons politiques, il a saisi la justice qui doit se prononcer ce vendredi.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Et ailleurs dans le monde, en Iran, on vote. Le vote pour le second tour des élections législatives a débuté aujourd'hui. Un scrutin au cours duquel les réformateurs espèrent confirmer leur percée. Selon les médias, les conservateurs disposent de plus de candidats que les réformateurs pour ce second tour, dont l'issue reste incertaine, la participation étant en général moins forte lors du second tour des législatives. Elle avait été de 62% le 26 février. Les résultats définitifs devraient être connus dimanche matin. Le nouveau Parlement se réunira alors fin mai pour élire son nouveau président. Le guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, ainsi que le président Hassan Rouhani ont appelé les électeurs à voter massivement.
Les États-Unis, scandalisés après le bombardement par le régime syrien d'un hôpital à Alep mercredi, ont appelé hier la Russie à contenir le régime de son allié Bachar al-Assad. Les précisions, John Lindon.
Pour le secrétaire d'État américain, cette tactique du régime syrien de viser délibérément des hôpitaux et personnels médicaux dans les zones tenues par les rebelles a déjà fait des centaines de morts. John Kerry a ainsi appelé Moscou à faire pression sur son allié Damas pour le pousser à respecter le cessez-le-feu entre le régime et les forces rebelles mises en place par une résolution du Conseil de sécurité. Les États-Unis se sont donc dit scandalisés par ces raids aériens sur cet hôpital d'Alep qui ont tué des centaines de personnes, dont des enfants, des patients et du personnel médical. Dans un communiqué, John Kerry a indiqué que la Russie a eu une responsabilité urgente pour faire pression sur le régime pour qu'il applique la résolution 2254 du Conseil de sécurité, notamment pour qu'il arrête de s'en prendre aux civils, aux bâtiments médicaux et aux secouristes et qu'il respecte pleinement le cessez-le-feu. Les États-Unis et la Russie coprésident le groupe international de soutien à la Syrie qui compte 17 pays et qui cherche à mettre fin à un conflit qui dure depuis au moins 5 ans.
Ajoutons que, selon l'AFP, le régime syrien se prépare à lancer une offensive pour reconquérir Alep et la province du même nom, en intensifiant les bombardements qui ont déjà fait près de 200 morts en une semaine.
Rétablir la sincérité des résultats électoraux de 2015, c'est la mission en 30 jours qu'a confiée Joslerme Privert, le président provisoire d'Haïti, à une commission hier pour faire la lumière sur les scrutins contestés de 2015. Haïti est plongé dans une crise politique profonde depuis que le processus électoral a été suspendu en janvier en raison d'accusations de l'opposition de l'époque dénonçant un coup d'état électoral fomenté par Michel Martelly qui était l'ancien président. Qui était le président à l'époque. Les partisans du PHTK, le parti haïtien Tête Calée, ont refusé de participer à la mise en place de la commission, criant à la manœuvre politicienne pour éliminer leur candidat Jovenel Moïse. Ils en appellent désormais aux députés et sénateurs pour résoudre la crise et réclament la destitution de M. Privert.
La Corée du Nord a condamné à 10 ans de travaux forcés un Américain d'origine coréenne pour subversion et espionnage. Selon l'agence chinoise Chine Nouvelle, Kim Dong-chul, qui avait été arrêté pour espionnage en octobre, avait en janvier affirmé dans un entretien à CNN avoir espionné pour le compte d'éléments sud-coréens conservateurs et photographié des secrets militaires en Corée du Nord.
En France, pour la quatrième fois en deux mois, des manifestations ont eu lieu hier à travers tout le pays. 170 000 personnes selon les autorités, 500 000 selon un syndicat, se sont mobilisées dans une quarantaine de villes pour le retrait d'un projet de loi sur le travail jugé trop complaisant envers le patronat.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VO Afrique.
Place à la Minute Éco maintenant avec vous, Eric Manirakiza.
L'État du Sénégal a signé deux accords avec un groupement turc pour terminer dans 8 mois les travaux du nouvel aéroport à 42 km à l'est de Dakar. Ces travaux avaient débuté en 2007 par le géant saoudien du BTP Bin Laden Group. Ce groupement turc a aussi obtenu une concession de 25 ans pour l'exploitation de cet aéroport, dont la mise en service est prévue en avril 2017. La Banque mondiale a suspendu certains de ses prêts au Mozambique. Ceci intervient après la découverte de près d'1,4 milliard de dollars de dettes cachées. L'approbation de nouveaux prêts pour le développement est retardée en attendant une nouvelle évaluation de la viabilité de la dette du pays qui sera menée conjointement avec le FMI. Enfin, la croissance économique aux États-Unis a ralenti plus sévèrement que prévu au premier trimestre, marqué par une baisse des dépenses des consommateurs et une chute des investissements des entreprises. Conséquence, les inscriptions hebdomadaires au chômage ont augmenté de 9 000 la semaine dernière.
C'était la Minute Éco. Merci Eric Manirakiza. Le sport tout de suite dans Le Monde aujourd'hui avec Bagassi Koura. Bonjour Bagassi.
Oui, bonjour Anastasie.
Et on commence avec les demi-finales allées de l'Europa League jouées hier soir.
Oui, avec le FC Séville, double tenant du titre, qui est allé tenir en échec le Shakhtar Donetsk, 2-2, et Liverpool qui tombe face à Villarreal, 1-0.
Et puis dopage, Mamadou Sakho est suspendu 30 jours à titre conservatoire.
Oui, le défenseur international français Mamadou Sakho, écarté par Liverpool car visé par une enquête pour une infraction au code antidopage, a été suspendu 30 jours à titre conservatoire par l'UEFA. C'est ce qu'a annoncé hier l'instance européenne de football. Sakho, aujourd'hui âgé de 26 ans, aurait subi un contrôle positif lors du 8e de finale retour d'Europa League contre Manchester United le 17 mars dernier, après avoir utilisé un produit pour brûler les graisses dont il ne connaissait pas la composition.
Et pour terminer, Anastasie, la NBA, le championnat de basketball nord-américain.
À Boston, Atlanta a battu Boston 104 points à 92. L'équipe d'Atlanta est donc vainqueur 4 victoires à 2 et elle est qualifiée pour les demi-finales de conférence. Soyez les bienvenus si vous venez de nous rejoindre. C'est Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Je suis Anastasie Tudiech. Tout de suite, nos dossiers du jour. Non au terrorisme, oui aux droits de l'homme. C'est le nom d'une campagne lancée en Tunisie et signée par 46 organisations tunisiennes et internationales. Le but est de prouver que la lutte antiterroriste est compatible avec le respect des droits de l'homme. Meili Segel a joint Amna Gelali, représentante de Human Rights Watch en Tunisie.
Cette campagne est le fruit d'une réflexion de beaucoup d'ONG tunisiennes et internationales, parmi les plus importantes qui opèrent en Tunisie. Elle vient répondre à un discours qui devient de plus en plus dominant dans les médias et qui prend de l'ampleur dans l'esprit de l'opinion publique, qui est celui de dire il n'y a pas de droits de l'homme dans la lutte antiterroriste. Donc suite aux attaques nombreuses qui ont eu lieu en Tunisie, donc il y a eu le Bardo, il y a eu tous deux attaques massives contre des touristes, des attaques quotidiennes contre les forces de l'ordre. L'opinion publique est de plus en plus hostile aux défenseurs des droits de l'homme qu'elle assimile à des gens qui défendent les terroristes. Donc nous, en tant qu'organisation justement des droits de l'homme, on a voulu répondre à ce discours, montrer les amalgames, montrer les approximations qui le sous-tendent. Et c'est pour ça que l'on a choisi ce slogan pour inverser cette idée qu'il n'y a pas de droits de l'homme dans la lutte antiterroriste en disant non au terrorisme, oui aux droits de l'homme. Ce slogan, il marque bien notre opposition bien sûr à toute forme de terrorisme qui est le contraire même des droits de l'homme. Mais en même temps, nous disons à l'État et aux forces de l'ordre que dans cette lutte, il ne faut pas utiliser n'importe quel moyen, que les moyens sont importants et que ces moyens doivent correspondre à l'État de droit et au respect des droits de l'homme. Nous, notre rôle, c'est de dire que même dans le cadre de la lutte antiterroriste, qui est une lutte féroce, il y a un certain nombre de règles qui doivent être respectées. On ne torture pas. On n'arrête pas les gens de manière arbitraire. On n'arrête pas les gens sur la base d'un soupçon qui n'est pas fondé. Il y a un droit à un procès équitable, il y a les droits de la défense. Tout ça fait partie des principes des droits de l'homme qui doivent être appliqués même en matière de terrorisme.
Ça veut dire qu'il y a eu des abus ?
Il y a eu des abus, il y a toujours des abus en matière de lutte antiterroriste, pas seulement en Tunisie, un peu partout dans le monde. Ces abus se traduisent par beaucoup d'arrestations arbitraires, par des incidents où il y a eu des allégations de torture. Vu la fragilité de la construction démocratique en Tunisie, vu le passif d'un État policier, vu l'absence de réformes profondes des forces de sécurité, tout ça fait qu'on a peur que la lutte antiterroriste ne soit qu'une manière de restreindre les libertés. Et c'est ce que nous cherchons à éviter au maximum en faisant cette campagne. Ce qu'on veut interpeller surtout, c'est l'opinion publique qui est dans une espèce de rejet des droits de l'homme, qui pense qu'il faut une lutte acharnée à n'importe quel prix contre le terrorisme. L'opinion publique est importante parce que c'est elle qui va générer ou pas une adhésion à ces principes-là, qui va soutenir les principes démocratiques, etc.
Amna Gelali, représentante en Tunisie de Human Rights Watch. La France et le Nigeria ont convenu d'un plan militaire commun pour renforcer la lutte contre Boko Haram. Eric Manirakiza a joint à Yaoundé le directeur de publication de L'Œil du Sahel, Guy Baye Gatama, pour une analyse. On l'écoute.
C'est un élément important que la France et le Nigeria puissent intensifier leur coopération militaire, notamment au niveau des renseignements. Parce que vous savez que la guerre contre Boko Haram est une guerre sous-régionale qui intègre 5 pays. Et on peut citer le Cameroun, le Tchad, le Nigeria, le Niger et dans une moindre mesure le Bénin. Et que de ces 5 pays-là, 4 pays sont francophones. La France est très, très bien installée. La France travaille depuis longtemps avec les armées de ces pays. Et il est de bon ton que la France, qui a été le premier pays à mobiliser les acteurs de la sous-région à Paris en 2004, puisse élever son niveau de coopération militaire avec le Nigeria, qui est le bastion de Boko Haram. N'oubliez pas aussi que la France a une base qui est très importante en Gamina. De cette base-là, les avions décollent et recueillent beaucoup d'informations, notamment dans la zone du lac Tchad. Et ces renseignements-là, s'ils sont transmis totalement ou de façon significative au Nigeria, ce sont des éléments qui peuvent permettre une meilleure coordination et une meilleure lutte contre la secte Boko Haram.
Pourquoi pas aujourd'hui? Qu'est-ce qui a manqué hier?
Il faut dire que c'est quelque chose de nouveau. Les pays essayaient de s'ajuster. Les armées de ces pays n'étaient pas au point. Chaque pays essayait d'abord de défendre ses intérêts. Il y avait des égoïsmes nationaux. Maintenant qu'on se rend compte que c'est une lutte globale, où les pays doivent se mettre ensemble, certains pays laissent des égos de côté et essayent de s'ouvrir davantage à la coopération sous-régionale.
Et la France n'est pas la première puissance à s'engager dans cette région contre Boko Haram. Il y a les États-Unis. Est-ce que vous pensez que les efforts déjà déployés n'étaient pas appropriés pour vaincre Boko Haram?
Ces efforts sont appropriés, mais ne sont toujours pas significatifs. Vous avez la force multinationaliste qui est déployée sur le terrain, mais qui manque encore de moyens. Les pays contributeurs prennent encore les pas. Les organisations qui devaient y apporter un appui significatif prennent encore le pas. Donc il faut être patient pour venir à bout du terrorisme. Ça ne va pas se faire en une journée.
Guy Baye, Gatama, joint à Yaoundé, au Cameroun.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, La Voix de l'Amérique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. Notez notre nouvelle adresse, voafrique.com. Tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages, photos et vidéos, et vos commentaires sur voafrique.com. À tout de suite.
Au Niger, l'état d'urgence a été prorogé de 3 mois dans la région de Diffa, proche de la frontière avec le Nigeria. L'état d'urgence qui accorde des pouvoirs supplémentaires aux forces de sécurité, dont celui d'ordonner des perquisitions à domicile de jour comme de nuit, a été instauré en février 2015 après les premières attaques de Boko Haram au Niger. Il a été depuis reconduit plusieurs fois du fait de la persistance des raids meurtriers des djihadistes. Nicolas Pino a joint le général Abdou Kaza, gouverneur de la région de Diffa, écoutons-le.
Du côté des terroristes de Boko Haram, les exactions ont cours de temps en temps et par endroits. Il s'est trouvé également que la dernière fois avec les opérations menées, Boko Haram est encore là. De temps en temps, nous-mêmes, nous menons des actions qui prouvent que Boko Haram n'a pas été totalement vaincu. C'est ce fait que les autorités nigériennes, ayant fait le point de situation, ont jugé utile de proroger donc cet état d'urgence.
Qu'en est-il de l'économie, notamment le commerce du poisson?
En fait, le commerce du poisson est justement l'activité la plus incriminée, preuve à l'appui, et dans l'acquisition de capacités de nuisance de Boko Haram. Et c'est pour cela que jusqu'à présent, nous pensons que la faiblesse observée au niveau de ce mouvement terroriste est liée donc aux difficultés qu'il a eues à continuer à prospérer à travers le commerce du poisson.
La circulation des véhicules est interdite à partir de 19h, 20h pour les piétons. Quand estimez-vous que les populations de Diffa pourront retrouver une vie normale?
C'est ce que nous recherchons nous-mêmes. Notre souci est d'aller le plus rapidement possible vers une fin de cette situation. Donc, le traitement qui est en cours est en train de porter ses fruits. Nous espérons que, d'une manière ou d'une autre, le résultat sera probant dans un certain avenir, comme serait déterminé aujourd'hui. Et la population sait très bien ce qu'elle a vécu comme difficulté et qu'elle a continué même maintenant à vivre par moments dans certaines positions, dans certaines contrées de la région. Donc, elle comprend parfaitement la situation, elle contribue de par donc sa bonne compréhension et parfois sa collaboration même directe par rapport donc au traitement de cette affaire.
C'était le gouverneur Abdou Kaza, gouverneur de la région de Diffa.
VOA Afrique au Niger, à Niamey, 24 heures sur 24 sur 102.5 FM.
L'armée burkinabé, la radio Omega FM et votre radio, VOA Afrique, ont été honorés hier par l'OJAP, l'Organisation de la Jeunesse Africaine pour la Paix. La cérémonie a été présidée par Alima Traoré, médiateur du FASO. Reportage Zoumana Wonogo.
C'est le siège du FESPACO, Festival panafricain du cinéma de Ouagadougou, qui a accueilli la cérémonie prix OJAP pour la promotion de la paix. Ce n'était pas du cinéma, mais une cérémonie qui a mis en valeur le travail de VOA Afrique pour la promotion de la paix au Burkina et en Centrafrique. Écoutons l'adresse de la marraine, Madame Alima Traoré. Elle est médiateur du FASO.
Le médiateur du FASO constitue un maillon. La voix de l'Amérique constitue un maillon. La voix Omega constitue un maillon. L'armée constitue un maillon. Donc, cette chaîne a plusieurs maillons et nous devons travailler en synergie pour que la chaîne soit solide. Une chose est de recevoir un prix, une autre est de continuer à le mériter. Et je souhaite que toutes ces structures bénéficiaires continuent de mériter ce choix qui a été porté sur elle. Je voudrais dire que autant le Burkina doit aller dans le sens de renforcer cette paix, autant les autres aussi du monde entier qui écoutent votre radio doivent savoir que si nous mettons un accent sur le renforcement de la paix, la cohésion sociale, c'est parce que sans ce socle, rien ne peut aller.
Le prix décerné à VOA Afrique est un tableau où trône en plein cadre la carte de l'Afrique. Et cette carte porte en sa partie ouest la carte du Burkina, avec ses couleurs nationales, rouge, vert et une étoile jaune à 5 branches. Il y a écrit « Prix OJAP de la paix et le développement humain », lauréat VOA Afrique. Pour ses émissions forum, ses directs, ses annonces d'utilité publique, sa défense du droit humanitaire et sa promotion de la culture, on ne va pas bouder notre plaisir. C'est une fierté pour VOA Afrique et pour ses nombreux auditeurs. Zoumana Wonogo, Ouagadougou, VOA Afrique.
Salut les amis, ici Roger Moutou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h, temps universel. Au programme, Island Music, de la bonne musique des Antilles et Caraïbes. RM Show, c'est aussi l'interactivité en direct sur Facebook Live. Si vous voulez me voir en direct, écouter de la bonne musique et partager vos idées avec le reste du monde, connectez-vous sur notre page Facebook VOA Afrique à 20h, temps universel. Nous avoir au téléphone, appelez au 001 202 619 31 40. Vos SMS et WhatsApp au 001 703 350 37 31. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa! What is love? Baby, don't hurt me. Don't hurt me. No more.
C'était Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique en direct de Washington. Merci à la rédaction et merci à vous pour votre attention. Georges Léonard Sagnot a assuré la mise en onde de ce programme, assisté à la console de Zoubier Altayeb. Je suis Anastasie Tudiache et je vous souhaite une très belle journée à l'écoute des programmes de VOA Afrique.